content d'être avec vous, chers amis, et de pouvoir continuer à méditer 1 Jean. On est à la toute fin de 1 Jean, comme on l'a dit, les derniers versets de cette lettre. C'est notre habitude dans l'Église de prêcher chaque livre de la Bible l'un après l'autre et d'aller du début à la fin. Et donc on arrive à la fin de 1 Jean et c'est les versets qu'on a lus qu'on va méditer ensemble. Mais avant de se lancer dans la méditation de ces versets, je vous invite à prier pour demander l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Prions. Notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as laissé ta parole. Dans la Bible, on peut connaître ta volonté, on peut connaître qui tu es, on peut connaître notre péché, on peut connaître Jésus, on peut connaître le moyen d'être en bonne relation avec toi et comment vivre pour toi. Notre Dieu, on te prie que tu sois avec nous alors que l'on réfléchit à ces versets, qu'on essaie de les comprendre et les appliquer à nos vies. On te prie, notre Dieu, que tu œuvres par ton esprit pour nous nourrir, pour nourrir nos âmes. On te prie que tu œuvres dans nos cœurs pour nous donner de la certitude dans un monde où règne la confusion. Et on prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le voyez peut-être sur le livret, le titre du message, c'est « Les certitudes au milieu de la confusion ». La confusion peut facilement régner. Il y avait un peu de confusion, je pense, de savoir où les enfants devaient aller exactement, n'est-ce pas? On n'est pas sûr et on aimerait savoir, mais où est-ce qu'ils doivent aller? Il y avait un peu de confusion de savoir comment on allume les lumières qui sont au fond, je pense, et on se dit, mais où est-ce que c'est? On aimerait avoir la certitude au milieu de la confusion. Mais il y a aussi de la confusion dans d'autres domaines où on aimerait savoir, mais quelle est la vérité? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Par exemple, faire un régime pour être en bonne santé. Toutes sortes de personnes diront différentes choses. Il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, et d'autres diront le contraire. Et on se dit, mais j'aimerais bien avoir des certitudes. Un autre domaine, comment prendre soin d'un bébé. Peut-être que vous me voyez avec Joy et vous dites « Ah, mais il devrait vraiment faire ça » ou « Il n'est pas en train de faire ça ». Tout le monde dit quelque chose de différent, comment aider un bébé à dormir la nuit. Chacun a un avis différent. La confusion. On dit « Mais on aimerait bien avoir la certitude. On aimerait bien avoir la vérité. » On pourrait mentionner beaucoup d'autres domaines de la vie, n'est-ce pas, où c'est comme ça, les finances, comment investir son argent, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il en est des grandes questions de la vie? Les questions les plus importantes. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Comment savoir ce qui se passera pour nous après la mort? Est-ce qu'on peut être sûr de passer l'éternité avec Dieu? Comment savoir si on est sûr? Dans ces domaines aussi, la confusion peut régner. On peut entendre différentes voix et on se dit, mais quelle est la vérité? Comment avoir la certitude? Si Jean a écrit cette lettre, si Jean a écrit ces versets qu'on vient de lire, c'est pour donner de la certitude au milieu de la confusion. La certitude dans ces grandes questions de la vie, par rapport aux questions de notre avenir éternel. Et on va voir 3 grands domaines que Jean nous aborde ce matin dans ce passage, qui lit un peu ce qu'il a déjà dit au début dans toute sa lettre, mais comme guise de conclusion. Donc d'abord, premier point, Jean nous donne des certitudes concernant notre assurance. Des certitudes concernant notre assurance. Vous pouvez voir le verset 13, on va le relire à nouveau. Le verset 13, Jean écrit « Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Jean dit qu'il écrit pour assurer ses lecteurs qu'ils ont la vie éternelle. Il n'écrit pas pour leur dire qu'ils auront peut-être un jour la vie éternelle. Il n'écrit pas pour qu'ils espèrent avoir un jour la vie éternelle, pour qu'ils continuent à travailler afin d'obtenir éventuellement, peut-être, la vie éternelle. Non, Jean leur écrit pour dire qu'ils ont la vie éternelle. C'est une certitude. Le salut est à eux. Pour toujours, ils ont le pardon de leurs péchés. Pour toujours, ils ont une relation rétablie avec Dieu. Leur salut est certain. Et s'ils ont cette vie éternelle, c'est grâce au Fils. On peut regarder les versets qui viennent juste avant. On a vu ça la semaine dernière, versets 11 et 12. Voilà ce qu'il est dit. « Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. » Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est en Jésus que se trouve la vie éternelle, que se trouve le pardon des péchés, et en lui seulement. Et donc parce que leur foi est placée au bon endroit, alors ils ont la vie éternelle et ils ne vont pas la perdre. Ce qui rend leur salut certain, ce n'est pas la force de leur foi, l'intensité de leur foi, mais c'est l'objet de leur foi, celui en qui ils ont cru, ce en quoi ils ont placé leur foi. Parce qu'ils ont placé leur foi dans le Fils, en Jésus, alors leur salut est assuré. Et c'est ça l'une des merveilles de la foi chrétienne. Que le salut que l'on reçoit de la part de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'incertain. Ce n'est pas qu'on est peut-être sauvé, ou qu'on est sauvé à moitié, à 50%. Non, c'est plutôt que Dieu nous sauve entièrement et qu'il ne change pas d'avis. Si on regarde les religions de ce monde, ne peuvent pas donner l'assurance du salut. Dans beaucoup de religions, c'est même interdit. C'est inconcevable de pouvoir dire qu'on est certain d'être sauvé, certain de là où on va passer l'éternité, d'aller au paradis. C'est le cas par exemple dans l'islam, ou chez les témoins de Jéhovah, ou dans le catholicisme romain. On ne peut pas être sûr d'être sauvé, de où on va passer l'éternité. Et si on y pense, c'est normal. Ces religions ne peuvent pas donner l'assurance du salut, parce qu'à partir du moment où ça dépend de moi, à partir du moment où ça dépend de mes bonnes œuvres, de ma vie de piété, de mes performances spirituelles, alors comment être sûr? Comment savoir si j'en ai fait assez? C'est même arrogant, en fait, de dire qu'on est sûr d'être sauvé, parce que ça reviendrait à dire, c'est bon, j'en ai fait assez, je peux être sûr d'aller au paradis. Et c'est ça la grande différence avec la foi chrétienne telle que la Bible la présente. Parce que selon la Bible, le salut dépend entièrement du Fils. Le Fils éternel de Dieu qui est venu sur terre vivre une vie parfaite, sans péché, dans l'obéissance totale envers Dieu. Et qui est mort sur la croix en se substituant à nous. Il a pris notre place, il y a eu un échange. Sur la croix, Jésus a porté nos péchés, il a pris notre condamnation, la colère de Dieu que l'on méritait. Et il nous a revêtus de sa justice, de sa perfection, de son obéissance parfaite à la volonté de Dieu. De sorte que la vie, la mort, la résurrection de Jésus sont pleinement suffisants pour nous donner le pardon de tous nos péchés, passés, présents, futurs. L'œuvre de Jésus est suffisante pour nous donner accès au Père et pour nous donner la vie éternelle, aujourd'hui, comme une certitude. Et donc, en plaçant notre foi dans le Fils, dans ce Fils-là, tel que la Bible présente en Jésus, on peut réellement être certain de notre salut, sûr de passer l'éternité avec Dieu au paradis. Dire ça, c'est pas arrogant, mais c'est en fait dire que ça dépend pas de moi, mais que ça dépend de lui. Être certain de son salut, c'est pas dire « c'est bon, j'en ai fait assez », mais c'est dire « c'est bon, lui, il en a fait assez ». Ce que Jésus a fait sur la croix était pleinement suffisant. C'est reconnaître que ça ne dépend pas de nous, de nos bonnes œuvres, de nos performances spirituelles, mais ça dépend de Dieu, de sa grâce, de son œuvre, de son choix de nous sauver. Donc voilà pourquoi le salut tel que la Bible présente est certain. Voilà pourquoi Jean peut dire à ses lecteurs qu'ils ont la vie éternelle. Mais c'est intéressant de noter qu'au verset 13, Jean dit qu'il écrit à ses lecteurs pour qu'ils sachent qu'ils ont la vie éternelle. Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'ils apprenaient ça. Ah, on a la vie éternelle en croyant en Jésus? Ah, on ne savait pas. Personne ne nous avait dit. Non, ils savaient déjà cela. Mais Jean veut leur rappeler. Jean veut qu'ils sachent qu'ils ont la vie éternelle, qu'ils en soient assurés, qu'ils soient encouragés dans cette certitude au quoi ils en doutent. Et ça, ça nous aide à distinguer entre la certitude du salut, le fait que notre salut est certain, et notre ressenti. Notre compréhension que c'est le cas, notre compréhension que notre salut est certain. En tant que chrétien, notre salut est certain, ça ne va pas changer, c'est sûr. Mais on peut parfois en douter. On peut parfois avoir le ressenti, une compréhension différente, du mal à réaliser que c'est le cas. Autrement dit, c'est tout à fait possible pour un chrétien authentique de se demander « Mais est-ce que je suis véritablement chrétien? Est-ce que je suis vraiment sauvé ?» Qu'est-ce qui me dit que j'ai la vie éternelle? Ces doutes, ces questions sont normales. Mais Jean écrit à ses lecteurs pour dissiper ces doutes, pour leur donner la certitude. En fait, avec ce petit verset, Jean résume d'une certaine manière le but de toute sa lettre. Il a écrit tout ce qu'il a écrit pour montrer à ses lecteurs qu'ils ont la vie éternelle, qu'ils sont du bon côté. On l'a dit plusieurs fois, le contexte de cette lettre, c'était des faux enseignants qui s'étaient glissés dans l'Église et qui non seulement enseignaient des choses différentes par rapport à Jésus, mais qui aussi eux-mêmes vivaient différemment. Il y avait donc beaucoup de confusion pour ces chrétiens. Comment savoir qui est vraiment chrétien et qui ne l'est pas? Comme on l'a vu la semaine dernière, comment savoir qui aime vraiment Dieu? Et moi-même, si je ne crois pas tout à fait pareil que ces faux enseignants, est-ce que j'ai vraiment la vie éternelle? Jean écrit pour apporter un peu de clarté au milieu de la confusion, pour apporter des certitudes. On l'a vu tout au long de ses prédications, ce que Jean met en avant dans sa lettre, c'est différents tests, différents critères pour reconnaître qui est vraiment du bon côté, qui sont vraiment ceux qui sont de Dieu, qui sont véritablement chrétiens. Il y a trois tests et je vais juste les résumer brièvement, on lira un passage pour chacun d'eux. Le premier test, c'est celui de la doctrine, croire les bonnes choses, et en particulier croire les bonnes choses par rapport à Jésus. Je lis le chapitre 4 de 1 Jean, versets 2 et 3. Voilà ce qu'il est dit. « Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » On avait vu ces versets, on avait vu que si quelqu'un rejette cela, que Jésus est venu en chair, l'incarnation de Jésus, il n'est pas de Dieu. C'est bien la preuve qu'il rejette lui-même le Père. Le deuxième test, c'est celui de l'obéissance, obéir au commandement de Dieu. On voit par exemple au chapitre 2, versets 3 et 4, « À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » Si quelqu'un refuse d'obéir au commandement de Dieu, continue à vivre dans le péché tout en disant être chrétien, c'est bien la preuve, nous dit Jean, qu'il n'est pas né de Dieu. Et le troisième test, c'est celui de l'amour envers les autres. On a vu ça récemment, chapitre 4, verset 8, par exemple. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et il est ici particulier question de l'amour les uns envers les autres. L'amour envers les autres, c'est la preuve qu'on a connu l'amour de Dieu. Mais au contraire, refuser d'aimer les frères et sœurs, c'est la preuve qu'on n'a pas connu Dieu. Donc voilà les trois critères que Jean met en avant pour aider ses lecteurs. Et il faut bien être clair que ces choses, ce n'est pas les choses à faire pour avoir le salut, les critères à remplir pour obtenir le salut. Mais c'est plutôt ce qui va nécessairement avoir lieu, d'une certaine manière, si on a déjà le salut, si on a déjà reçu la grâce de Dieu, en conséquence du salut. Donc Jean met en avant ces critères d'abord pour aider ses lecteurs à démasquer les faux enseignants, pour leur dire... Ceux qui ne remplissent pas ces critères, qui vous disent qu'ils aiment Dieu mais qui vivent n'importe comment dans le péché, ne les écoutez pas. C'est bien la preuve qu'ils ne viennent pas de Dieu. Ceux qui viennent à vous en lui disant qu'ils apportent un nouveau message mais qui renient des choses essentielles par rapport à Jésus, ne les écoutez pas. C'est bien la preuve qu'ils ne viennent pas de Dieu. Mais Jean met aussi en avant ces critères pour encourager ses lecteurs qu'ils sont du bon côté, qu'ils ont la vie éternelle, qu'il n'a pas de doute par rapport à eux. Parce qu'ils sont en train d'avoir la bonne doctrine, de croire dans le Fils. Parce qu'ils sont en train de chercher à obéir aux commandements de Dieu. Parce qu'ils ont de l'amour les uns envers les autres. Ces choses sont bien la preuve qu'ils sont nés de Dieu, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont sauvés. Et donc nous-mêmes, on peut regarder à ces critères de 1 Jean pour être encouragés de notre propre salut si on doute. Si on se demande, mais est-ce que je suis vraiment sauvé ? Est-ce que je crois en Jésus tel que la Bible le présente? Est-ce que je vois le fruit dans ma vie d'un changement par rapport au péché? Est-ce que j'ai un désir d'aimer les autres autour de moi, même si ce n'est pas toujours facile? Ce n'est pas que ces choses doivent être parfaites. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. Bien sûr qu'on avance en progressant. Mais c'est que ces choses doivent être là, aussi petites qu'elles soient. Et ce n'est pas que ce sont ces choses, comme on l'a dit, qui produisent notre salut. Ce n'est pas ces choses qui vont nous faire obtenir la vie éternelle. Non, heureusement, notre salut ne dépend pas de notre manière de vivre. Notre salut est certain, indépendamment de notre manière de vivre. Mais notre manière de vivre, le fait de vouloir obéir à Dieu, d'aimer les autres, c'est le fruit du salut, c'est la preuve que le salut a bien eu lieu. Alors, je suis conscient qu'il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites sur le sujet. Et je crois que la meilleure manière d'aborder ces choses, c'est d'en parler les uns avec les autres. Et donc, si vous-même, vous doutez avec ces... Vous posez des questions sur ces sujets-là, si vous doutez vous-même, parlez-en les uns avec les autres après le culte ou à d'autres moments. Venez en parler à l'un des anciens, on serait heureux d'en discuter avec vous. Et je vous encourage également à lire, on ne l'a pas ici à la librairie, mais on pourra l'avoir prochainement, et il vous sera envoyé dans le mail qui sera envoyé, un livre de Pascal Denot qui s'appelle « Le côté obscur de la vie chrétienne ». Vous connaissez, pour une partie d'entre vous, on l'avait lu en tant qu'Église, qui parle en partie des doutes liés à l'assurance du salut. Donc première chose que Jean veut montrer, des certitudes concernant l'assurance. Deuxièmement, Jean veut donner à ses lecteurs des certitudes concernant la prière, dans les versets 14 à 17. Le fait d'avoir la vie éternelle nous donne une relation privilégiée avec Dieu et la liberté de nous approcher de lui dans la prière. Et regardez ce que Jean dit dans les versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alors, il y a différentes mauvaises réactions qu'on pourrait avoir en lisant ces versets. La première mauvaise réaction, ce serait de penser que ces versets sont comme un chèque en blanc pour la prière. Ah ben, je demande ce que je veux et Dieu va forcément me le donner. C'est la manière dont certains voient la prière, c'est juste un moyen pour que Dieu réponde à nos désirs, pour que Dieu me donne ce que moi je veux. Et Dieu est un peu comme un distributeur automatique qui me donne ce que je veux si je lui demande. Mais Dieu n'est pas comme ça, et ces versets précisent bien le cadre de nos demandes. Selon sa volonté, il est dit au verset 14, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il s'agit de prier non pas tous les désirs qui passent dans notre cœur, qui sont centrés sur nous-mêmes, mais selon la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de voir Dieu comme un distributeur automatique, mais de comprendre qu'il est le Dieu souverain, qui agit dans ce monde selon sa volonté et pour sa gloire. Une deuxième mauvaise réaction face à ces versets, ce serait de penser qu'on doit rechercher la volonté de Dieu dans nos propres ressentis et dans notre propre imagination. On se dit, d'accord, je dois prier des choses qui sont selon la volonté de Dieu, mais quelle est la volonté de Dieu? Et on pense que pour trouver la volonté de Dieu, on doit aller dans une forêt, tôt le matin, chercher dans le silence les pensées qui nous viennent et dire, ah, c'est comme ça que je vais trouver la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas là que se trouve la volonté de Dieu. Dieu a déjà fait connaître sa volonté. Dieu nous a donné 66 livres dans lesquels il a fait connaître qui il est et sa volonté pour ce monde et pour nos vies, où il s'est fait connaître lui-même, ce qu'il désire, comment il agit dans ce monde. C'est dans la Bible qu'on comprend qui est Dieu, ce qui compte pour Dieu, ce que Dieu prévoit de faire et comment il veut agir. Donc si on veut connaître la volonté de Dieu, on doit connaître la Bible. Prier selon la volonté de Dieu, donc, c'est prier selon les priorités que la Bible met en avant. C'est prier les choses auxquelles la Bible accorde de la valeur. Prier les choses auxquelles la Bible apporte de l'importance. Et on verra quelques exemples dans un instant. La troisième mauvaise réaction face à ces versets, ce serait de tomber dans le cynisme. De dire, ça ne sert à rien de prier alors, s'il faut prier selon la volonté de Dieu. Parce que de toute façon, Dieu va faire ce qu'il veut, n'est-ce pas ? La volonté de Dieu va s'accomplir quoi qu'il arrive, même si je ne prie pas. Et donc c'est bien la preuve que mes prières ne servent à rien. Mais ça, c'est une mauvaise manière de comprendre la souveraineté de Dieu. Comme si le fait que Dieu soit au contrôle de toutes choses nous amènerait à être inactifs. Ce n'est pas le cas. La Bible affirme les deux. Le fait que Dieu est totalement souverain au contrôle de chaque détail de ce monde. Et la Bible affirme également que nous sommes responsables de nos actions, que nous sommes responsables de nos choix. Oui, la volonté de Dieu va s'accomplir, quoi qu'il en coûte, sans aucun doute, et pourtant, il nous invite quand même à prier. En fait, l'enseignement de la Bible sur ces choses nous montre que Dieu agit dans ce monde de manière souveraine en se servant de nous. Dieu agit dans ce monde de manière souveraine en se servant de nous. Ou pour le dire autrement, Dieu accomplit sa volonté en partie en réponse à nos prières, en se servant de nos prières. Et donc, ce que ces versets nous enseignent plutôt que ces trois mauvaises réactions qu'on pourrait avoir, ces versets nous enseignent qu'on a besoin de recadrer nos prières avec la volonté de Dieu. On voit souvent la prière comme nous qui présentons nos projets à Dieu. « Ah Dieu, voilà la liste de choses que j'aimerais vraiment avoir. S'il te plaît, ça va ? On pense que c'est ça un peu la prière, c'est nous qui présentons ce qu'on veut à Dieu, nos propres projets, nos propres désirs. Mais ces versets nous montrent que la prière, c'est plutôt nous qui rentrons dans les projets de Dieu. C'est nous qui prions dans la direction de ce que Dieu veut faire, dans la direction de ce que Dieu est déjà en train de faire. Et Dieu se sert de nos prières faites selon sa volonté pour y répondre et pour accomplir son plan. Alors bien sûr que dans la prière, on fait connaître nos besoins à Dieu. Bien sûr qu'on décharge nos fardeaux devant Dieu. La Bible dit ça ailleurs de la prière et c'est vrai. Mais alors que l'on fait cela, alors que l'on fait nos requêtes, on veut prier dans le sens de sa volonté. Et même là où on ne connaît pas sa volonté, on prie quand même en dépendant de lui, en s'en remettant à lui pour qu'il agisse comme il veut. Steve a donné un exemple de cela en priant pour les amis du Nord Kivu. Comment est-ce qu'on prie pour une situation comme cela au Nord Kivu ? Et on regarde qu'est-ce qui a la valeur, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte dans la parole de Dieu. Bien sûr que l'on prie pour que la guerre cesse, bien sûr que l'on prie pour que les autorités fassent leur travail. On prie pour toutes ces choses, mais on n'a pas toutes les certitudes par rapport à cela. Mais on prie aussi pour les choses que Dieu veut faire, pour que l'Évangile continue à se répandre, pour que les chrétiens soient fortifiés, pour que ceux qui enseignent la parole le fassent fidèlement, etc., etc. D'autres exemples, peut-être plus proches de ce que nous on vit. Si on fait face à une situation de stress au travail, comment est-ce qu'on prie ? Que ce soit nous-mêmes, que ce soit pour quelqu'un d'autre qui fait face à cette situation, comment est-ce que l'on prie ? On réfléchit. Qu'est-ce que la Bible a à dire sur cette situation ? Comment est-ce que l'enseignement de la Bible influence ma compréhension des choses ? Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire et on pourrait donner des références pour chacun. On va pas faire ça maintenant, mais on pourrait trouver des références de la Bible. On peut dire que Dieu ne veut pas que je m'inquiète, mais il veut que je lui fasse confiance. Et donc je prie pour que Dieu m'aide à bien gérer ce stress, à bien gérer cette anxiété, et que je puisse me décharger sur lui, que je puisse vraiment lui faire confiance, reconnaître qu'il est au contrôle de toutes choses. On pourrait dire que Dieu veut que je sois un bon témoin. Et donc je prie pour que, malgré le stress, je continue à bien faire mon travail, que je sois connu pour bien faire mon travail, pour être un bon collègue, plutôt d'être connu pour des mauvaises réactions ou pour des attitudes qui n'honorent pas Dieu. Si cette situation de stress est liée à de l'injustice que je subis, on sait que Dieu veut que je pardonne. Donc je prie que Dieu m'aide à pardonner malgré l'injustice, que Dieu m'aide à aimer même ceux qui sont difficiles à aimer, que Dieu change mon cœur. On sait que Dieu veut ma sanctification, que je grandisse dans ma lutte contre le péché, malgré les difficultés. Et donc on prie pour que Dieu m'aide, malgré ce stress, malgré cette situation difficile, que Dieu s'en serve pour mon bien, pour ma sanctification, etc., etc. Plusieurs choses qu'on pourrait ajouter. Un autre exemple, si on apprend que quelqu'un a une maladie qui est grave, qui est sérieuse, comment est-ce que l'on prie ? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans cette situation-là. On ne sait pas si Dieu va apporter la guérison, que ce soit par les moyens médicaux, d'une autre manière. On ne sait pas si Dieu va laisser la situation telle qu'elle. On ne sait pas quelle sera la situation, l'issue. Et on peut prier pour ces choses. On prie en dépendant de Dieu. Mais là encore, on réfléchit. Qu'est-ce que la Bible dit ? On veut prier, par exemple, pour que cette personne reste attachée à Dieu, continue à glorifier Dieu, même dans la souffrance, à reconnaître que Dieu est bon, que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle. On veut prier pour que Dieu utilise cette épreuve pour la faire grandir en Jésus, pour la faire grandir en sainteté, comme Romains 8, 28 nous le dit. On veut prier pour que cette personne ait la force, la persévérance dans la souffrance. On veut prier pour que Dieu utilise même cette épreuve, cette maladie, pour se glorifier, alors que cette personne parle de Jésus autour d'elle, etc., etc. Là encore, différentes choses qu'on pourrait ajouter. Donc j'espère qu'on voit que quand on pense de cette manière-là, au fait de prier selon la volonté de Dieu, tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut prier, pour nous-mêmes, les uns pour les autres. Ça nous demande, oui, de bien connaître la Bible, ça nous demande, oui, de bien connaître ce qui a de la valeur, ce qui est important pour Dieu, ce que Dieu est en train de faire dans ce monde. Et ça nous amènera à recadrer nos prières. En fait, peut-être que ça nous amènera à avoir des prières un peu moins égoïstes, un peu moins centrées sur nous-mêmes, un peu moins centrées sur les choses de ce monde terrestre, et avoir des prières bien plus grandes, des prières bien plus éternelles. Souvent, on prie uniquement pour les choses immédiates. Seigneur, aide-moi avec cet entretien d'embauche, aide-moi avec cet examen, aide-moi avec ceci ou cela, donne-moi la santé. Mais si c'est ça l'essentiel de nos prières, on se prive de quelque chose. On se prive de ces grands domaines où Dieu veut agir, qu'il nous révèle dans sa parole. Seigneur, aide-moi à grandir en sainteté. Seigneur, aide-moi à aimer les autres. Seigneur, aide-moi à parler de Jésus à cette personne. Seigneur, aide-moi à te glorifier malgré la souffrance. Seigneur, aide-moi à te rester fidèle jusqu'au bout. Et on prie ça pas juste pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres autour de nous. C'est à de telles prières que Dieu répond. C'est dans ces situations-là que la prière est vraiment puissante, quand on s'aligne à la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut agir, Dieu va faire ces choses, et il veut les faire en réponse à nos prières. Est-ce qu'on profite de ça? Est-ce qu'on prie comme ça les uns pour les autres? Alors juste après ces versets, Jean nous donne un exemple, un autre exemple d'une prière selon la volonté de Dieu, de choses pour lesquelles prier. Regardez avec moi les versets 16 et 17. Je les relis à nouveau. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Alors quand on lit ça, je vois tous me regarder, dire « mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Comment comprendre ces versets ?» Alors il faut reconnaître que ces versets soulèvent beaucoup de questions. C'est quoi ce péché qui mène à la mort ? Je crois que quand on fait face à un verset qui est difficile, l'une des premières choses qu'on peut faire, c'est regarder le contexte immédiat, le contexte plus large, et laisser le contexte nous aider à comprendre ce verset. Et ça tombe bien, on a vu tout 1 Jean, n'est-ce pas ? Donc on a bien toute cette lettre en tête, plus ou moins en tout cas. Et ça aide pour comprendre ce verset, d'avoir en tête le contexte de 1 Jean. Jean a mis en garde contre les faux enseignants qui enseignent des choses différentes par rapport à Jésus. En faisant cela, Jean nous a dit qu'il se prive du Fils. Il rejette le Fils. Et Jean nous avait dit que c'est dans le Fils que se trouve la vie éternelle. Jean nous avait dit également au chapitre 2 qu'en rejetant le Fils, ils se privent du Père. Ils n'ont pas la vie éternelle. Par leur attachement à ce faux enseignement, ils sont en train de commettre un péché qui les conduit vers la mort éternelle, vers le jugement de Dieu. Donc je crois que ce péché qui mène à la mort, c'est tout simplement le rejet du Fils, ou simplement une manière de vivre qui contredit ouvertement le Fils, ce que faisaient ces faux enseignants qui circulaient à l'époque. Alors pourquoi est-ce que Jean dit, à la fin du verset 16, « c'est pas pour ce péché-là que je dis de prier » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne crois pas que Jean est en train d'interdire de prier pour de telles personnes, qu'il ne faut surtout pas le faire. Mais Jean veut surtout clarifier ce qu'il est en train de demander à ses lecteurs. En leur demandant de prier pour ceux qui pêchent, c'est ça que Jean veut leur dire, et on va le voir dans un instant, Jean ne parle pas de prier pour ces gens-là, pour ces faux enseignants qui s'égarent. C'est d'autres personnes qu'il parle. Il parle de prier pour un frère ou une sœur qui pêche. Donc en gros, son but dans ces versets n'est pas de dire pour qui ne pas prier, mais de dire pour qui prier. Voilà, je vous encourage à prier pour ces personnes-là. Je vous encourage à prier pour ceux qui pêchent. Ah, mais je ne parle pas de ceux-là, de ces faux enseignants qui s'égarent, mais je parle de ceux qui sont autour de vous, vos frères et sœurs, dans la foi, lorsque eux, ils pêchent. Voilà, si ça, c'est toujours pas clair, j'ai fait mon mieux ici et on peut en parler après. Mais en tout cas, l'emphase, je crois, ici, ce que Jean veut nous montrer, ce qu'on n'a pas peur de vue, c'est la bonne réaction à avoir face à un frère ou une sœur qui pêche. Quand on voit un frère ou une sœur pêcher, que ce soit envers nous, envers quelqu'un d'autre, on est assez rapide à intervenir, n'est-ce pas? On est assez rapide à reprendre la personne, à en parler à d'autres, à laisser bouillir les choses au-dedans de nous. Mais Jean nous dit de faire autre chose. Prier. Tout simplement, prier pour la personne, pour qu'elle puisse voir son péché si elle ne l'a pas vu, pour que cette personne puisse se repentir de son péché et que Dieu lui donne la vie, une relation rétablie avec lui. Est-ce que c'est ça notre première réaction? Alors oui, la Bible donne différentes réactions à avoir quand on est confronté au péché d'un frère ou d'une sœur dans différents passages. On ne va pas voir ça maintenant, mais la réaction à avoir dépend de la situation, du péché en question, de plusieurs critères. Mais quelle que soit la réaction, la bonne réaction à avoir, une chose qu'on peut toujours faire à n'importe quel moment, c'est de prier pour cette personne. Prier pour son bien spirituel. C'est ça qui manifeste l'amour mutuel dont Jean a parlé dans cette lettre. On veut se soucier les uns les autres. On veut chercher leur bien spirituel et donc prier pour eux. Se soucier même de leurs péchés. Pas s'en soucier dans le sens où on va commérer, en parler à tout le monde, les regarder négativement parce qu'on pense qu'ils sont plus faibles que nous, parce qu'ils font telle ou telle chose. Non, s'en soucier dans le sens où ça nous touche, parce qu'on cherche leur bien spirituel. On veut leur sainteté. Par exemple, on voit une réaction d'un frère ou d'une sœur qui nous semble immature, qui nous semble ne pas honorer le Seigneur, qui nous semble être un péché. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'indigne en se plaignant que cette personne a encore beaucoup de progrès à faire ? Est-ce qu'on en parle à quelqu'un pour se plaindre ? Est-ce qu'on se jette sur cette personne pour la reprendre ? Ben Jean nous dit, commencez par prier. Commencez par prier pour ce frère. Commencez par prier pour cette sœur, pour que le Seigneur l'aide à voir son péché. Et peut-être qu'elle est déjà consciente de son péché. Priez pour que le Seigneur l'aide à travailler sur ce péché, à lutter contre ce péché, à grandir en sainteté. Observez le changement et remerciez Dieu lorsqu'il aura agi. Voilà un bon exemple d'une prière selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas ? Priez pour la sainteté de nos frères et sœurs. Et enfin, dernier point, dernier domaine où Jean veut donner des certitudes. Il veut donner des certitudes concernant notre vie dans ce monde. Je ne sais pas comment vous trouvez, vous, la vie dans ce monde en tant que chrétien. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est pas facile ? Est-ce que ça dépend des jours ? J'imagine que ça dépend des jours. Et j'imagine qu'on serait tous d'accord pour dire que c'est pas toujours facile. On a parfois l'impression, en tant que chrétien, de vivre à contre-courant. Et souvent, le courant est un peu trop fort. C'est dur, ça coûte. Et on se demande, mais est-ce qu'on pourra vraiment tenir bon ? On aimerait parfois avoir un bouton raccourci, n'est-ce pas, pour arriver directement au ciel. Hop, fini les combats, fini les luttes, fini les difficultés, on est déjà au ciel. Mais malheureusement, il n'y a pas de bouton raccourci dans la vie chrétienne. On vit dans ce monde, même si c'est dur. Et donc, dans ces derniers versets, Jean nous rappelle la sécurité que l'on a, même malgré les difficultés. Regardez versets 18 et 19 avec moi. Voilà ce que Jean écrit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est au pouvoir du malin. Jean fait ici référence à certaines choses qu'il a déjà évoquées dans sa lettre. Par exemple, le fait que ceux qui sont nés de Dieu ne pèchent pas, c'est ce qu'il a déjà dit au chapitre 3. Pas pour dire qu'un chrétien ne pèche plus du tout, point à la ligne, mais pour dire qu'un chrétien, celui qui est né de nouveau, aura une attitude différente vis-à-vis du péché. Il n'est justement pas en train de commettre ce péché qui mène à la mort, dont Jean a parlé. Mais malgré tout, il y a des difficultés. Le malin dont il est parlé ici, c'est Satan, l'ennemi de Dieu, qui cherche à nous toucher, c'est-à-dire qui cherche à nous atteindre, à nous nuire, à nous faire tomber. Et en plus de ça, on vit dans ce monde. Et Jean nous rappelle que le monde entier, il dit, est sous le pouvoir du malin, sous le pouvoir de Satan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le monde est diabolique ? Dans un certain sens, oui. Le monde, ce monde mauvais qui rejette Dieu, il est sous le contrôle de Satan. Il est dirigé par Satan. Ça ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle. Ça ne veut pas dire que Satan aura le dernier mot, comme on va le voir. Mais ça veut dire que ce monde est sous l'influence de l'ennemi de Dieu. Ça doit nous encourager à ne pas être trop naïfs en tant que chrétiens. Le monde dans lequel on vit n'est pas inoffensif. Il n'est pas en train de chercher à plaire à Dieu. Au contraire, l'influence de l'ennemi de Dieu se fait ressentir alors que le monde cherche à tout faire pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner de Jésus, pour diminuer notre amour pour lui. Toutes les personnes et les structures de ce monde sont affectées par cette influence. Personne n'est neutre. Que ce soit sous couvert d'une fausse religion ou que ce soit avec de l'athéisme explicite, ce monde rejette le vrai Dieu. Que ce soit sur Netflix, sur YouTube, dans les salles de cinéma, dans les salles de concert, dans les librairies et partout ailleurs, ce monde subit l'influence de l'ennemi de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit quitter ce monde, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre en dehors de la société. Non, on est appelé à vivre dans ce monde, mais on doit être conscient que alors qu'on voudra vivre en tant que disciple de Jésus, il y aura un décalage. Il y aura une différence, il y aura des valeurs qui s'opposent. On va vivre à contre-courant. Et on peut parfois être fatigué de marcher à contre-courant. Qu'est-ce qui nous dit qu'on va tenir jusqu'au bout? Qu'est-ce qui nous dit que Satan, l'ennemi de Dieu, ne va pas nous faire tomber, ni qu'il cherche à nous détruire? Jean nous rappelle la sécurité que l'on a. Au verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Celui qui est engendré de Dieu, c'est le Fils, c'est Jésus. Et lui, Jésus lui-même, il nous garde, il nous protège. Et si c'est Jésus qui nous garde, qui pourrait nous nuire? Le malin ne peut même pas nous toucher, il ne peut même pas nous atteindre. Comme on l'a vu dans 1 Jean, Jésus a remporté la victoire finale à la croix. Il a porté un coup mortel au diable, au péché, à la mort. C'est qu'une question de quelques minutes sur l'échelle de l'éternité pour que Jésus revienne victorieux, pour célébrer sa victoire et la défaite de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'on chante parfois ce chant. Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ce chemin, sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. On sait qu'il nous gardera et que si c'est Jésus qui nous garde, alors on est en sécurité. Et ce n'est pas simplement que dans ce combat, on a la sécurité de se savoir entre les mains de Jésus, mais c'est aussi qu'on a d'autres piliers auxquels s'accrocher. Regardons juste brièvement le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Fils de Dieu nous a ouvert les yeux pour qu'on puisse connaître le véritable, pour qu'on puisse connaître celui qui est la vérité même, Dieu lui-même. Et ce n'est pas simplement qu'on le connaît par notre intelligence, mais c'est aussi qu'on est en communion avec lui. On est dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. On est unis à lui, en communion étroite avec lui. C'est ça que ça veut dire d'avoir dès aujourd'hui la vie éternelle. Alors qu'on lutte, que le chemin paraît long, on s'accroche en se réjouissant de ce privilège de connaître Dieu et de connaître le Fils. Et vous avez vu ce qu'il est dit par rapport au Fils, par rapport à Jésus, fin du verset 20. C'est lui, son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est le Dieu véritable. Il n'est pas un demi-dieu, il n'est pas une puissance qui appartient à Dieu. Non, il est Dieu avec un Dieu, un D majuscule. C'est Jésus, le Dieu véritable. Et ça nous aide alors qu'on termine à comprendre la fin un peu abrupte, on pourrait dire, de 1 Jean. Vous avez vu avec quoi cette lettre termine ? Petits enfants, verset 21, gardez-vous des idoles. Et c'est la fin, c'est fini. Normalement, dans les lettres du Nouveau Testament, on a des salutations. Que la grâce de Dieu soit avec vous, saluez un tel, etc. Et là, on n'a rien de tout ça. J'en dis, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et c'est terminé. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ? De quelles idoles est-ce qu'il parle ? Là encore, je crois que ça aide d'avoir en tête tout le contexte de cette lettre. Il s'agit d'une église qui est confrontée à des faux enseignements sur Jésus. Des gens qui présentent une version déformée de Jésus. Un Jésus qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, s'attacher à ces faux enseignements, au final, c'est s'attacher à une idole. C'est s'attacher à un autre Jésus. Adorer un autre Dieu. Le vrai Jésus que la Bible présente, il est le Dieu véritable. Tout enseignement qui déforme Jésus présente un autre Dieu et qui n'est qu'une idole. Et il faut fuir cela. Ça nous aide à comprendre que l'idolâtrie, ça ne concerne pas simplement les choses. Oui, on peut donner aux choses de ce monde la place qui revient à Dieu seul. L'argent, la carrière, le sport, un loisir, ces choses peuvent être des idoles et prendre l'affection, la place dans notre cœur qui revient à Dieu seul. Mais l'idolâtrie peut aussi concerner les faux enseignements auquel on s'attache. Parce que quand on s'attache à un faux enseignement, on n'est pas en train d'adorer Dieu correctement. On est en train d'adorer une caricature de Dieu, une idole inventée par les humains. Jean nous dit, gardez-vous de cela. Restez attachés au vrai Jésus, à celui qui est le Dieu véritable. C'est de ça dont on a besoin pour vivre en tant que chrétien, quand la confusion règne, malgré les hauts et les bas, et malgré l'opposition qu'on va rencontrer. Et dans un instant, on va chanter un chant qu'on ne chante peut-être pas souvent. C'est un rempart que notre Dieu. C'est un chant qui a été composé il y a plusieurs siècles, qui a été composé en fait au XVIe siècle par Martin Luther. Vous avez peut-être entendu parler de Martin Luther, l'un des réformateurs du XVIe siècle. La raison pour laquelle j'ai choisi ce chant, c'est qu'on est bientôt le 31 octobre, et pour les gens un peu comme moi, le 31 octobre, c'est la fête de la Réforme. C'est il y a plus de 500 ans, le 31 octobre 1517, que Martin Luther a affiché les 95 thèses à propos de la pratique des indulgences. Et c'est ça qui, symboliquement, a démarré le mouvement qu'on appelle la Réforme, la redécouverte de l'Évangile. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et on ne va pas les dire maintenant, vous inquiétez pas. Mais cette période de l'histoire était une période où la confusion régnait, où les difficultés étaient fortes et où les gens qui voulaient s'attacher au vrai évangile faisaient face à un coup important. Et Luther a composé ce chant, « C'est un rempart que notre Dieu », pour montrer la confiance que l'on peut avoir en Dieu malgré la difficulté, face à l'ennemi de Dieu qui veut s'opposer à nous. Et ce chant est devenu un véritable hymne de la Réforme. Certains ont dit que c'était la Marseillaise de la Réforme, pour parler de la confiance que les chrétiens pouvaient avoir, même face à la mort, en Dieu. Alors nous, aujourd'hui, on fait face à des combats différents. Mais on a des combats. Vivre en tant que chrétien n'est pas facile. Le chemin qui reste à parcourir nous paraît parfois encore bien long. Mais dans ce combat, on peut s'attacher aux mêmes vérités qui ont porté les chrétiens de tout temps. On peut dire aussi que Dieu est notre rempart, notre refuge. Donc je vais prier, puis ensuite les musiciens viendront, et on pourra chanter tous ensemble ce chant. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés dans la confusion par rapport aux grandes questions de la vie. Notre Dieu, merci parce qu'on peut être certain de notre avenir éternel. On peut être dans la paix avec toi pour l'éternité grâce à Jésus. Aide-nous, notre Dieu, à réaliser cela si l'on doute. Aide-nous à contempler à nouveau l'œuvre que Christ a faite à la croix et à réaliser à quel point c'est suffisant. Aide-nous, notre Dieu, à partager ce message autour de nous, ce beau message de l'Évangile, cette belle assurance qui se trouve en Jésus, que ce message puisse résonner encore aujourd'hui. Aide-nous, notre Dieu, quand on trouve qu'être chrétien est bien trop difficile, à ne pas abandonner, mais à porter les regards vers toi, qui est notre refuge, notre forteresse. On prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à Jean, peut-être, je ne sais pas si tu as quelque chose.